Sabasuni.
L'arme au poing pour défendre l'école publique. Nejma Bouakra, Yael Mandelboum. Premier épisode, quand l'extrême droite veut chasser un instituteur de son école.
Le printemps s'est installé à Saint-Paul, mais ce mois d'avril 1933 a été exceptionnellement froid, même dans le petit village provençal. Partout en France, il a gelé, jusqu'au littoral méditerranéen. Les rayons du soleil commencent à peine à réchauffer l'atmosphère. L'école du village est une vieille bâtisse peu entretenue. Seule une vigne vierge donne un peu d'ombre en cas de grosse chaleur. C'est ici que se déroule une scène qui fait basculer la vie d'un homme, Célestin Freiné, et d'un couple, celui qu'il forme avec Élise Freiné. Un événement que l'un et l'autre ont qualifié de légitime défense contre le fascisme.
Il l'a dit et assumé. J'ai là sous ma garde 14 enfants. Je les défendrai, coûte que coûte. Et il a un revolver à la main. Les armes, Célestin Freiné, il connaît. Sa génération est partie vaillamment sur le front de la Première Guerre mondiale. 20% des instituteurs mobilisés ne sont jamais revenus en classe. Et pour ceux qui reviennent, la vie a perdu ses couleurs. Me voici devant vous, enfants, moi l'un des innombrables faillis, dont la guerre a anéanti toutes les croyances et presque toutes les forces, écrit l'enseignant allemand Heinrich Maria Remarque. Célestin Freiné le raconte, Élise l'écrit, l'instituteur blessé de guerre, atteint au poumon, doit trouver un nouveau souffle pour enseigner, tout autant pour lui que pour ses élèves. Il ne veut pas fabriquer de nouveaux soldats. L'école publique est insalubre, l'air vicié, il traîne un inspecteur directement dans les WC pour qu'il compte les asticots. Et puis pourquoi ne pas faire classe dehors ?
Je prenais l'après-midi mes gosses pour les mener, leur faire le tour du village où on allait en passant, on regardait le boulanger ou bien on regardait le forgeron, puis on allait faire le tour dans la campagne, on ramenait toute une moisson de choses très intéressantes.
Et c'est parce que son enseignement est adossé à une grande résolution politique portée par le courant de l'éducation nouvelle, essaimants, revues, congrès, militants syndicaux, qu'il affronte l'hostilité des patriotes et nationalistes ce jour-là à Saint-Paul-de-Vence.
Oui, il faut imaginer un enseignant qui a un peu plus d'une trentaine d'années, qui n'est pas très grand.
Laurence de Coq.
Qui descend au milieu d'une cour de récréation, la cour de récréation de la petite école de Saint-Paul. Il a face à lui quand même une foule assez importante à l'échelle de ce village, puisqu'on est sur une échelle d'une centaine de personnes, des parents, des habitants, des habitantes, des enfants aussi, et beaucoup de bruit parce qu'ils ont des casseroles, ils ont des crécelles. Et il a une arme, un revolver, et il braque cette arme sur cette foule et il leur dit qu'il défendra les enfants et l'école coûte que coûte.
Dans cette foule est présent le maire de la ville, Saint-Paul-de-Vence.
Oui. Il s'appelle Joseph de Margne. C'est un homme de droite, très autoritaire, proche d'un groupe qui s'appelle les Jeunesses Patriotes, groupe d'anciens combattants des années 30 que l'on peut qualifier d'extrême droite. proche aussi sans doute de l'Action française, donc tournant en fait dans ces réseaux des ligues des années 30, qui sont des ligues d'extrême droite. Et c'est un homme qui est déjà en conflit depuis de nombreuses années avec Célestin Freinet, parce que Freinet l'accuse de ne pas entretenir l'école suffisamment, et donc de laisser l'école dans un état délabré, ce qui n'est pas propice aux apprentissages des élèves.
En fait, dès 1921, il y a une circulaire du ministre Léon Bérard,
Henri Louis Gault,
qui demande à ce que tous les instituteurs communistes soient surveillés de près. Il a donc été surveillé, Élise aussi, par la même occasion. Et lorsqu'ils étaient à Saint-Paul-de-Vence, ils y sont arrivés en 1928. Et immédiatement, les choses ont été conflictuelles avec la mairie, qui était une mairie extrêmement réactionnaire. Et la surveillance s'est resserrée de toujours plus, jusqu'au moment où l'action est devenue tout simplement impossible sous le fait de cette surveillance et de cette persécution, c'est le mot qu'ils employaient, de cette persécution administrative.
Un homme en armes face à d'autres qui portent également des armes, Célestin Freinet dit « c'est de la légitime défense ».
Oui, Célestin Freinet a peur en fait. Lorsque cette scène se produit, on voit bien dans les archives, parce que la scène elle est écrite plusieurs fois, réécrite, etc. Il y a une enquête de police, et donc quand on s'immerge dans cette scène, on comprend que c'est une scène extrêmement violente. Il y a du bruit, beaucoup de bruit, des bruits de casseroles, des bruits de crécelles, des cris menaçants. Abat le communiste, chassez-le, ça c'est un terme qui revient très souvent, chassez-le. Donc il se sent menacé, il y a une femme qui brise une vitre pour rentrer, la grille de l'école est forcée. Donc on est dans une situation de grande violence. D'ailleurs, Élise, la femme de Célestin Freinet, raconte que elle est au balcon avec sa fille Madeleine, qui est toute petite et qui hurle. Et pour calmer sa fille, elle lui dit « Regarde, c'est le carnaval ». Donc voilà, c'est une scène que l'on imagine en effet très violente. Et donc, il se déclare en légitime défense parce qu'il est persuadé que la foule va prendre d'assaut l'école. Et il y a quand même des enfants dans cette école. Il est responsable des enfants, il le dit vraiment. Donc voilà, il estime que la cause est juste la sienne.
Mon rêve. J'ai rêvé que toute la classe s'était révoltée contre le maire de Saint-Paul qui ne voulait pas nous donner les fournitures gratuites. Monsieur Freinet était devant. Il dit à monsieur le maire « Si vous ne voulez pas nous payer les livres, on vous tue. »« Non, sautez-lui dessus !» dit monsieur Freinet. Je m'élance. Les autres ont eu peur. Monsieur le maire sort son couteau et me donne un coup sur la cuisse. De rage, je prends mon couteau et je le tue. Monsieur Freinet a été le maire. Et moi, je suis allée à l'hôpital. À ma sortie, on m'a donné 1000 francs. Diaz, 11 ans, 10 mois.
Alors le rêve de Diaz, c'est un rêve qui est considéré par les familles comme un appel au meurtre. Et donc il tombe à point nommé, puisque le soupçon d'endoctrinement est déjà là. Certains ne veulent plus de cet instituteur, et là ils ont la preuve matérielle qu'il est extrêmement nocif puisqu'il incite à la violence. Il faut savoir que les textes étaient imprimés et qu'ensuite ils étaient diffusés dans les familles. Donc on imagine ces familles et le maire lui-même lisant le texte. Voilà. Donc c'était évidemment du pain béni pour ceux qui voulaient son départ.
Après, surtout, ce qui est étrange dans ce rêve, c'est que c'est Freinet qui dit « attaquez-le ». Du coup, ça a choqué un peu tout le monde.
C'est un peu la créativité des enfants, leurs rêves en fait, leur imagination.
Les rêves sont incandescents. Comment déposer les rêves dans une école publique ?
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un renversement copernicien de la pédagogie, de tout ce qui se fait à cette époque-là. Freinet a lutté toute sa vie contre ce qu'il appelait la scolastique, c'est-à-dire une approche extrêmement rigide de l'enseignement. Et donc, on est là dans un renversement quand même profond, important.
Frédéric Marie-Pro.
Parce que Freinet œuvrait pour la régénération du prolétariat, c'est-à-dire que les enfants du peuple, les enfants des ouvriers, devait se libérer pour avoir les outils intellectuels, pour prendre la parole, pour avoir cette voix à eux dans le monde où ils puissent s'exprimer. Donc c'est une pédagogie qui va vraiment aller tout le temps dans ce sens-là, l'ensemble des techniques. Et donc le rêve, c'est un aspect parmi d'autres qui va permettre et qui va participer de ce mouvement de régénération des enfants du prolétariat pour les préparer à la lutte future.
Il faut trouver un moyen qui permette à l'enfant de vraiment s'exprimer en profondeur, non seulement ce qu'il fait, mais ce qu'il sent, ce qu'il désirerait. Et ça, ce sont nos techniques qui l'ont développé peu à peu. De sorte que l'expression libre est une des grandes conquêtes de notre pédagogie. Évidemment, il faut que l'enfant ait le goût d'écrire quelque chose, de dire quelque chose, de s'exprimer. Pour cela, il faut donc qu'il ait la possibilité de parler. Et il faut qu'il ait des gens qui l'écoutent ou qui le lisent. Sinon, il parlera bien un moment tout seul, mais après, il sera vite fatigué, il ne dira plus rien.
Donc là, on va composer. Donc le matin, quand on arrive, on écrit des textes libres, ce qu'on a fait pendant les week-ends, les vacances. Et les maîtresses, elles choisissent des jolis textes, on les marque sur, elles les écrivent sur des bandes de papier, et après, nous, on les compose. On prend un composteur. On regarde si l'encoche est bien vers nous, mais on met pas les lettres dans le sens où c'est écrit, on met dans l'autre sens pour que ça imprime à l'endroit, comme sinon ça imprime à l'envers. Maintenant, on va imprimer le texte qui est d'abord du V100 sur un tablier.
Pourquoi Célestin Freinet se rend-il en URSS en 1925
Alors, en Russie, après la révolution bolchevique de 1917, il y a tout un travail de refondation complète, retournement complet d'une société. Ça va passer par l'éducation. Et à la tête de ce projet éducatif énorme, qui concerne quand même plusieurs dizaines de millions d'individus, il y a la femme de Lénine qui s'appelle Nadia Krupskaya, qui n'est pas vraiment ministre de l'instruction publique, parce qu'évidemment il fallait que ce soit un homme, mais en tout cas qui est le bras droit de tout ça.
Pour comprendre le trajet de Freinet, il faut avoir à l'esprit qu'il y a deux voies parallèle et simultané, qui l'a suivi, la voie de
Henri Louis Gault,
l'éducation nouvelle, où là il y avait tous les plus grands intellectuels de l'époque, prix Nobel, Rabindranath Tagore, des grands psychologues, Jean Piaget, Pierre Beauvais, Claparède, c'est exceptionnel quoi, John Dewey, plus grand philosophe américain, Neil, tous ces penseurs, tous ces intellectuels, et puis Montessori, tous ces pédagogues, qui sont réunis peu de temps après la Première Guerre mondiale pour essayer de faire autre chose de cette société. Donc il faut imaginer pour lui, un petit instituteur sans diplôme, l'effet que ça a pu avoir d'accélération de son travail intellectuel. Et puis, en même temps, il y a la création de l'ITE, l'International des Travailleurs de l'Enseignement. Donc, lorsque l'International Pan-Russe des Travailleurs de l'Enseignement a invité une cinquantaine, je crois, de syndicalistes de l'Ouest à venir visiter l'URSS, il en a fait partie, il était l'un des délégués. Et là, il a rencontré des personnages, il a visité les écoles pendant tout ce mois de septembre 1925 et c'est certainement le point de départ de sa pédagogie. C'est ce voyage-là en URSS.
Et Krupskaya, donc la femme de Lénine, entreprend vraiment une réorganisation, enfin même on pourrait dire une invention d'un nouveau système éducatif. Et Célestin fait ce voyage et il revient, en tout cas décrit-il, hein, avec des paillettes dans les yeux. C'est-à-dire que, d'ailleurs comme tous ceux qui ont fait le voyage à ce moment-là, parce qu'évidemment on leur montre un work in progress qui est extraordinaire puisque c'est des enfants qui apprennent à lire alors qu'ils étaient destinés à travailler dans les champs ou dans les usines. C'est surtout toute une réflexion sur ce qu'on appelle l'enseignement polytechnique. Ça, c'était le gros truc de Krupskaya, c'est-à-dire un enseignement dans lequel les savoirs intellectuels et les savoirs pratiques sont mis à égale dignité. Et donc, c'est la fabrique d'un homme nouveau. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très fascinant. Parmi les mots-clés hein, de la façon dont Krupskaya pense pédagogiquement, il y a la coopération et il y a l'autogestion. Donc la coopération, c'est le fait de mettre au travail les enfants ensemble, de telle sorte à ce que chacun nourrisse réciproquement le travail de l'autre. C'est pas de la collaboration, où là, chacun arrive avec ses savoirs et met les savoirs en commun. La coopération, c'est vraiment mes savoirs sont enrichis par les tiens. Et donc, c'est une façon d'avancer et qui, bat en brèche l'idée qu'on avance par la stimulation, par la concurrence. C'est l'inverse. On avance par la stimulation horizontale.
Plus de notes ?
Pas de notes. Pas de notes. Pas de concurrence, pas de classement. Pas de classement.
Maintenant, je mets de l'encre sur le rouleau. Et maintenant, je mets l'encre sur les lettres.
On peut comprendre l'inquiétude d'un maire de droite, voire d'extrême droite, vis-à-vis d'Élise et Célestin, qui construisent une imprimerie au sein même de l'école. On les soupçonne donc de faire de la propagande.
Alors évidemment, Élise et Célestin, c'est un couple politique, l'un et l'autre. Hein. Leur fille dit que même, d'ailleurs, sa mère était encore plus radicale et révolutionnaire que lui. Et d'ailleurs, ils se rencontrent sur des bases politiques. En fait, Élise lit les premiers articles de Célestin, notamment dans la revue Clarté, dans la revue École émancipée, et j'imagine, elle tombe amoureuse d'une plume. Hein. Et d'ailleurs, elle lui écrit, et voilà. Et après, ils se rencontrent.
Et si elle ne l'avait pas rencontré, elle ne se serait pas mariée de toute façon, c'est ce qu'elle dit. C'est ainsi qu'elle présente le lien qu'elle a immédiatement ressenti dans leur rencontre. Bon, c'est une espèce d'illumination, semble-t-il, cette nuit passée dans la gare de Grenoble en 1925, avant que Freinet ne prenne le départ pour l'URSS. On pourrait en faire un film, c'est une image assez romanesque.
Et donc ce couple qui s'est installé dans le village de Saint-Paul, comme ils ne cachent pas aussi leur appartenance politique et qu'elles se voient visuellement dans le village, par exemple, Élise Freinet, elle fait du nudisme sur son balcon devant le curé, ils vont pas à la messe, enfin voilà, donc il y a des choses qui se savent. Et donc très rapidement, évidemment, ils sont accusés d'endoctriner les élèves et donc il faut à tout prix prouver qu'il est toxique pour les enfants.
Face à lui, une foule peut-être hargneuse, peut-être armée, mais de l'autre côté, il est soutenu, même par ses élèves.
50-50. Quand on regarde, ah ouais, c'est vraiment très intéressant, parce qu'au moment où a lieu cette manifestation, il a 50% d'élèves qui sont grévistes. On parle d'élèves grévistes, hein, c'est intéressant. En fait, c'est des élèves qui sont empêchés d'aller à l'école par leurs parents. Et il y en a 50%. Et donc, ça veut dire qu'il y a 50% d'élèves non grévistes et à peu près la moitié, en effet, de parents qui vont soutenir Célestin Freinet et qui vont se mobiliser hein, par le biais de pétitions, etc. Ça, c'est le soutien local. Mais après, il y a un soutien national qui est énorme. Dans les archives, on a des centaines et des centaines de télégrammes envoyés soit spontanément par des instituteurs, institutrices, soit par des sections syndicales, énorme soutien syndical, et puis la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, enfin, il est vraiment porté, hein, il est extrêmement soutenu, il n'est pas du tout isolé, et il est soutenu avec plusieurs cercles, en fait, du local au national. Mais ce qui va vraiment déclencher, ce qui va rendre possible, en fait, cette nationalisation d'une affaire locale, c'est les connexions qu'entretient le maire avec l'Action française, et donc le rêve de Diaz, celui qui appelle au meurtre du maire, est envoyé à Paris à Charles Maurras, directeur du journal L'Action française, journal extrêmement diffusé, et il en fait sa une. Et Charles Maurras en fait d'ailleurs une affaire personnelle, c'est-à-dire que il va revenir plein de fois sur cette affaire.
Et 41 éditos et articles.
Voilà, hein, donc c'est limite une obsession, hein, il va suivre ça de très très près. Tout ça fait que ça prend une ampleur, ça devient une crise. Il y a une interpellation des parlementaires, et donc il y a une interpellation du ministre, et le ministre est sommé de donner une réponse.
22 juin 1933, l'ami du peuple appelle à la création d'une ligue des pères de famille.
Très intéressant ça, un journal d'extrême droite, qui s'appelle l'ami du peuple, contrairement à ce que son titre pourrait indiquer, un journal d'extrême droite appelle à la formation d'une ligue de parents pour surveiller les instituteurs, les institutrices et surtout pour les dénoncer. Et donc pour dénoncer tout ce qui serait susceptible de ressembler à de la pénétration de l'idéologie communiste dans les classes.
On parle également du virus freudien. On risque d'inoculer le virus freudien.
Alors la psychanalyse, pour l'extrême droite, c'est le démon. C'est le démon, c'est-à-dire que voilà, et maintenant on se met à sonder les esprits, l'inconscient, c'est de la sexualité, on peut tout dire. Là, c'est carrément c'est la dépravation, hein, la pensée de la sexualité, tout ce qui est mis en avant par Freud, c'est la dépravation. Donc ça, il faut absolument le fustiger. Or, Freinet est passionné par la psychanalyse, évidemment, comme tous les pédagogues de l'époque.
Il est certain que l'ampleur qu'a pris la fameuse affaire de Saint-Paul, le fait que cette affaire ait pris une telle ampleur, a propulsé Freinet sur encore plus qu'il ne l'était déjà sur le devant de la scène, puisque, bon, venaient de France et de l'étranger toutes sortes de courriers adressés au ministre pour qu'on le... pour vanter ses mérites, pour dire que c'est un grand pédagogue. Et c'est quelque chose qui a rendu ces personnes, évidemment, qui les a grandies, qui les a magnifiées dans le champ des luttes contre l'oppression capitaliste de cette époque.
Mais dans leur vie quotidienne, ordinaire, ils sont épuisés. Ce système scolaire ne leur convient plus.
Bien sûr que l'ampleur prise par l'affaire conduit Freinet et Élise à... Bon, Élise, à ce moment-là, elle était en congé de maladie reconductible, elle souffrait de tuberculose, et à ce moment-là, ils ont bien dû se rendre à l'évidence, ils ne pouvaient pas continuer. Je pense qu'ils étaient comme dans un vêtement trop étroit à l'éducation nationale. Ils ne pouvaient plus rester dans leur institution, ils étaient obligés d'en partir. Et c'est bien parce que ça leur a permis d'inventer autre chose. À ce moment-là, a surgi l'école Freinet. Et c'est extraordinaire parce qu'ils ont fait, comme toujours, de leurs difficultés un marchepied pour inventer quelque chose d'autre. Et la création de l'école Freinet en 1934, c'est un fruit de cette affaire de Saint-Paul. C'est d'imaginer un lieu dans lequel toutes les limites dont souffraient Freinet et Élise dans le cadre de l'institution, là, serait beaucoup moins présente.
Le soleil est arrivé. Le soleil est arrivé. Les oiseaux s'amusent.
La seule solution pour Élise et Célestin, c'est de construire leur propre école. C'est la seule solution de sortir de l'école publique.
Élise et Célestin, ils sortent essoufflée, pour le coup, de cette affaire du 24 avril 1933. Je crois que vraiment, Célestin, il est à terre. On le voit avec, dans les archives, il y a ses arrêts maladie. Il en peut plus. Et là, il se sent vraiment désavoué par l'institution. Complètement désavoué par l'institution, qui l'a pas soutenu, qui lui a filé un blâme, etc. Et vraiment, à contre-cœur, il se dit la seule solution, c'est de partir. Et c'est d'aller fonder une école dans laquelle on nous laissera tranquille. Et c'est vraiment à contre-cœur, parce que c'est un grand défenseur de l'école publique. Et il sait d'ailleurs qu'on va lui reprocher. Et ça ne manque pas, hein, quand il annonce qu'il va fonder son école, il se prend plein de remarques dans la figure de ses collègues. Mais oui, il présente ça comme un non-choix, en fait. C'était soit on arrête tout, soit on continue, mais on ne peut plus continuer avec une institution qui ne veut plus de nous. C'est comme ça qu'il le dit. Donc, en effet, l'idée, elle germe comme ça, de faire sécession, d'une certaine manière, avec l'école publique, mais en faisant le serment que cette école privée qu'ils vont ouvrir, elle sera quand même pour les enfants pauvres. Donc, cette école, elle doit être gratuite, elle doit, ou alors payer, ne coûter quasiment rien, et elle doit accueillir vraiment des enfants prolétaires. Ça, c'est le truc qu'on sent, hein, au moment de la création de l'école, c'est chevillé au corps, c'est comme ça que ça va se passer. C'est les enfants les plus démunis qui seront accueillis dans cette école.
Le soleil est arrivé. Le soleil est arrivé. Les oiseaux s'amusent. Les hirondelles joyeuses font leur nid sur les murs. Les enfants jouent dehors. Les papas travaillent sur leur chantier en sifflant.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je rappelle qu'on se dépêche. Au revoir. Je sais pas que
tout le groupe vous attend. Le soleil est revenu.
Merci à Laurence Decocq, historienne et auteure d'Une journée fasciste, Élise et Célestin Freinet, pédagogues militants. À Henri Louis Gault, enseignant à l'Université de Nancy, auteur de À côté de Freinet. À Frédéric Marie Pro, enseignante à l'Université de Nancy. À Carmen Montes, directrice de l'école Freinet du Poulier de 1975 à 2009. Un grand merci à l'équipe pédagogique de l'école Freinet et à tous les enfants. L'arme au poing pour défendre l'école publique, un documentaire de Nejma Bouakra, réalisé par Yael Mandelbaum. Premier épisode, quand l'extrême droite veut chasser un instituteur de son école. À venir, au second épisode, la détermination d'Élise et Célestin Freinet et de milliers d'instituteurs.